À l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition internationale, les États-Unis viennent d'annoncer que la Russie et l'Ukraine sont d'accord sur un sujet et un endroit, d'accord pour un cessez-le-feu uniquement en mer Noire. Nous revenons dans un instant sur ce premier accord partiel entre Kiev et Moscou depuis le début de la guerre. La guerre à Gaza aussi nous occupe. Depuis le début des reprises des combats, il y a maintenant une semaine, le ministère de la Santé du Hamas annonce la mort de 792 personnes.
Également concernant le Proche-Orient, se déroulera demain à Jérusalem une conférence sur l'antisémitisme. Elle provoque une vive polémique, non pas pour son contenu, mais en raison de ses invités. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, parti au passé sulfureux à l'égard des Juifs, eh bien nous appellerons sur ce sujet nos collègues du quotidien suisse Le Temps. Leur correspondante à Jérusalem a réalisé un reportage sur ce sujet.
Nous sommes par ailleurs à Istanbul dans un instant. Malgré l'interdiction de manifester, les 1400 arrestations de manifestants en 6 jours, nouvelle soirée de mobilisation en Turquie contre l'interpellation du principal opposant à l'actuel président turc. Notre correspondante nous attend. Et puis un mot de justice en France. L'heure du réquisitoire a sonné au procès de Nicolas Sarkozy sur un éventuel financement libyen de sa campagne électorale en 2007. Pour le parquet national financier, Nicolas Sarkozy est le véritable décisionnaire et commanditaire du pacte conclu avec Mouammar Kadhafi. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
Après 2 jours de discussion en Arabie Saoudite, la Maison Blanche annonce que Kiev et Moscou vont cesser les hostilités en mer Noire.
Les deux parties ont accepté un cessez-le-feu uniquement pour ce lieu stratégique maritime qu'est la mer Noire. Anastasia Becchio, la Russie et l'Ukraine se sont entendus pour garantir à cet endroit la sécurité de la navigation commerciale.
C'est d'abord la Maison Blanche qui a dévoilé l'accord, ou plutôt les 2 accords conclus séparément avec la Russie et l'Ukraine. Les documents ont été publiés sur le site de la Maison Blanche. Le premier paragraphe est identique dans les 2 communiqués. Chacun des 2 pays accepte d'assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire. 2 autres points sont similaires. Les États-Unis et l'Ukraine, ou la Russie, ont convenu d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre l'accord visant à interdire les frappes contre les installations énergétiques. Cet accord conclu le 18 mars n'a pour l'instant pas été suivi d'effet, les bombardements ayant continué de part et d'autre. La présidence américaine précise par ailleurs avoir décidé avec Moscou et Kiev de mettre en place un mécanisme de contrôle de la trêve, se félicitant des efforts de pays tiers visant à faciliter l'application des accords sur la navigation en mer Noire et les frappes sur les installations énergétiques. Côté russe, le Kremlin a publié un communiqué dans lequel il met une condition, la trêve en mer Noire n'entrera en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes.
Côté ukrainien, à présent, confirmation aussi de ce cessez-le-feu partiel à effet immédiat en mer Noire. Nous en parlons avec notre correspondante en direct de Kiev, Emmanuel Chasse. Bonsoir.
Bonsoir.
Le président ukrainien a réagi à cette annonce venue des États-Unis.
Oui, tout à fait. Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une trêve couvrant la mer Noire était entrée en vigueur immédiatement, mais qu'il demanderait à Donald Trump davantage d'armes et de sanctions contre la Russie si Moscou en venait à rompre cet accord. Plus tôt, le ministre de la Défense, Roustem Oumyalov, avait confirmé cet accord, mais averti également que tout mouvement de navires militaires russes au-delà de l'est de la mer Noire violerait l'accord maritime et entraînerait donc des mesures ukrainiennes. Selon le président Zelensky, les 2 parties s'accordent aussi pour cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques, avec Kiev qui avertit qu'il faudra poursuivre les discussions pour garantir la sécurité de ces infrastructures qui sont régulièrement frappées par la Russie. Et la Russie qui confirme également son accord sur la mer Noire pour avoir ainsi ses activités commerciales reprendre dans la région où, rappelons-le, l'Ukraine a enregistré certains de ses plus grands succès pendant la guerre et humilié la flotte russe en mer Noire.
Emmanuel Chasse, en direct d'Ukraine, Volodymyr Zelensky met par ailleurs la pression sur ses alliés sous forme de questions avant le sommet sur l'Ukraine prévu après-demain à Paris. Notre tâche est maintenant de comprendre qui est prêt à mettre en place les garanties de sécurité en ce qui concerne l'envoi d'un contingent militaire, affirme Volodymyr Zelensky. Et puis enfin, signe aussi que les temps changent, les Danoises tenues de se présenter au service militaire dès le 1er juillet prochain, à la lumière de la situation actuelle et politique politique de défense et de sécurité politique. Les forces armées ont besoin de recruter davantage. Déclaration cet après-midi du ministère danois de la Défense.
Voilà pour le grand titre de l'actualité internationale de ce mardi soir. Aux États-Unis, à présent, l'affaire des plans de guerre divulgués par erreur à un journaliste. Cette affaire continue de faire du bruit.
Ce matin, les chefs du renseignement de Donald Trump étaient attendus par une commission au Congrès, séance durant laquelle les élus démocrates les ont passés aux grilles au sujet de cette faille de sécurité. La suite, c'est Lubna Anaki qui nous la raconte à New York.
This was a huge mistake.
Une erreur monumentale. C'est ainsi que les élus démocrates de la commission du renseignement ont qualifié la récente fuite d'informations hautement sensibles. Une affaire révélée hier par The Atlantic, son rédacteur en chef dit avoir été ajouté à un groupe de discussion sur Signal dans lequel de hauts responsables de l'administration Trump discutaient de détails de frappes militaires contre les rebelles houthis au Yémen. Le sénateur Warner estime qu'un audit est nécessaire et que les responsables de cette faille doivent rendre des comptes.
S'il s'agissait d'un responsable militaire ou d'un responsable du renseignement, il serait viré. Je pense que cette affaire illustre le comportement imprudent et incompétent de cette administration dans la gestion d'informations sensibles.
Face à la commission, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, et la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, ont tous deux refusé de répondre à plusieurs reprises. Les démocrates se sont dit déterminés à obtenir des réponses, saisissant ainsi l'occasion de montrer qu'ils exercent le rôle d'opposition. De leur côté, les républicains siégeant à la commission ont préféré rester sur l'ordre du jour, la publication du rapport sur les menaces qui pèsent sur les États-Unis, une façon pour eux de signaler qu'il n'y a pas de polémique. Lubna Anaki, New York, RFI.
RFI, 19h07 ici à Paris, 2h de plus à Istanbul, la contestation qui continue en Turquie.
L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu ne passe pas auprès de la population. Une résistance s'organise depuis près d'une semaine après l'interpellation et l'incarcération du maire d'Istanbul qui se verrait bien remplacer l'actuel président turc. Recep Tayyip Erdogan reste d'ailleurs discret sur la crise que traverse désormais son pays. Des rassemblements quotidiens ont lieu dans plusieurs grandes villes de Turquie, dont Istanbul, où nous vous retrouvons, Céline Pierre Magnani, correspondante d'RFI. Pour la 7e fois consécutive, Céline, un rassemblement interdit par les autorités est prévu devant la mairie.
Exact. Alors, pour ce 7e et a priori dernier appel à la mairie, il semble que beaucoup plus de monde qu'hier se soit mobilisé. De nouvelles grilles ont été érigées par la police pour limiter l'accès à l'esplanade. Le nombre de gardes à vue s'élève désormais à 1400 personnes depuis mardi dernier. Et aujourd'hui, 7 journalistes turcs ont été placés en détention provisoire, dont un photojournaliste de l'AFP. Ils sont eux aussi accusés de participation à des rassemblements interdits depuis la semaine dernière dans les 3 plus grandes villes du pays. Et depuis 2 jours, les collectifs étudiants très actifs reprennent le flambeau et lancent des appels à rassemblements dans différents quartiers de la ville. C'était notamment le cas aujourd'hui dans le parc de Maçka, dans l'arrondissement de Beşiktaş, de la rive européenne d'Istanbul, qui comprend une forte population étudiante. Plusieurs universités étaient aujourd'hui boycottées par les étudiants. Et ce redéploiement dans les quartiers n'est pas sans rappeler ce qui s'était passé au moment de Gezi en 2013, puisque lorsque les forces de l'ordre avaient réussi à faire évacuer la place Taksim, la mobilisation s'était redéployée dans la ville. Et c'est dans ce contexte que le parti du CHP doit nommer le remplacement d'Ekrem İmamoğlu à la mairie dans les prochains jours.
Merci Céline Pierre Magnani en direct d'Istanbul. L'ONU qui par ailleurs exprime ce soir son inquiétude face aux arrestations massives en ce moment en Turquie.
L'actualité en Asie nous emmène en Corée du Sud où actuellement se déroulent d'importants incendies.
Des feux de forêt parmi les pires de l'histoire sud-coréenne qui ravagent le sud-est du pays. Un temple bouddhiste a été réduit en cendres. Un village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO a reçu l'ordre d'évacuer. Plus d'une dizaine de départs de feux se sont déclaré au cours du week-end dans le pays, tuant 4 personnes et ravageant des milliers d'hectares.
Il est 19h09 ici à Paris. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir avec Adrien Delgrange sur RFI. La justice en France à présent, Adrien.
Après près de 3 mois d'audience pour essayer de comprendre si Nicolas Sarkozy a bénéficié ou pas de manière légale ou illégale d'argent libyen pour sa campagne électorale de 2007, ce matin, les réquisitions ont commencé. La parole au ministère public et les mots sont cinglants. L'ex-président français est le véritable décisionnaire et commanditaire d'un pacte de corruption noué en 2005, avant son élection, par ses proches collaborateurs Claude Guéant, Brice Hortefeux. Envoyer ces deux-là est la démonstration de son implication totale en tant que commanditaire. C'est pour cela qu'on ne trouvera jamais aucune trace écrite, a soutenu le procureur Quentin Dandois. Il demande ainsi la condamnation des trois hommes pour corruption et association de malfaiteurs.
Jordan Bardella dans l'avion ce soir, direction Israël.
Le président du Rassemblement National entame une visite de deux jours en Israël où il doit notamment participer à une conférence sur l'antisémitisme avec d'autres leaders d'extrême droite européenne. Une visite historique d'après les partisans du RN, mais critiquée notamment par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, à qui Marine Le Pen, Stéphane Duguay, a répondu dans la journée.
Une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, c'est ce que dit Yonatan Arfi, le président du CRIF, à propos de la stratégie de normalisation du RN. Évidemment, ça ne plaît pas à Marine Le Pen.
C'est à nos compatriotes de confession juive, peut-être, de dégauchiser le CRIF pour qu'il reprenne le rôle qui doit être le sien, sans coloration politique.
Une déclaration qui surprend la députée insoumise Gabrielle Catala, alors que son parti a des relations houleuses avec le CRIF.
Tout le monde sait que le CRIF n'est pas du tout de gauche, qui s'est d'ailleurs largement illustré dans son opposition aux personnalités de gauche et aux partis de gauche. Je pense que Mme Le Pen devrait juste se mêler de ce qui la regarde.
Le député macroniste Mathieu Lefèvre préfère lui féliciter le président du CRIF pour sa prise de position contre le RN.
Le CRIF représente les Juifs de France, c'est pas une institution de droite ou de gauche. Moi, ce que je trouve choquant, c'est d'entendre une présidente de parti qui a investi des candidats avec des casquettes nazies aux législatives venir donner des leçons de morale et des leçons de bienséance au président du CRIF.
De quoi décrédibiliser la dédiabolisation revendiquée par le RN, comme l'explique le chef des socialistes, Olivier Faure.
Marine Le Pen, on la connaît. Sous le vernis, c'est la même chose que son père. Ils ont cherché à utiliser la lutte contre l'antisémitisme pour en faire l'étendard d'un autre combat contre les musulmans.
Une posture indigne, ajoute le chef du PS, et une polémique à laquelle Jordan Bardella devra sûrement répondre pendant son voyage en Israël.
Reportage Stéphane Duguay. Leurs portraits ont été affichés aujourd'hui sur les grilles de l'Assemblée nationale à Paris. Les photos des Français Cécile Kohler, Jacques Paris. Ils sont détenus depuis 2002 en Iran. Et c'est la première fois que l'Assemblée nationale française affiche sur ses grilles des photos d'otages, a déclaré la présidente de l'institution, Yaël Braun-Pivet. La famille de Cécile Kohler était présente pour le dévoilement de ses portraits.
Dans l'actualité environnementale, le groupe sidérurgique ArcelorMittal, qui est déjà mis à mal par la crise de l'acier, mis en examen.
Mis en examen pour faux et usage de faux, mais aussi mis en danger de la vie d'autrui au sujet d'une pollution industrielle près de Marseille, dans la région de Fos-sur-Mer. Igor Strauss, pour l'association Défense et Protection du Littoral du Golfe de Fos, qui a déposé plainte il y a maintenant 7 ans, la mise en examen d'ArcelorMittal est justifiée par la récurrence des violations suite à la réglementation, mais aussi par la gravité des conséquences sur la santé humaine et l'environnement.
Si la plainte officielle contre ArcelorMittal Méditerranée a été déposée en 2018, la contestation, elle, remonte à bien plus longtemps, selon la journaliste indépendante Ariane Lavrieux, qui a enquêté sur le sujet.
Il y avait déjà une contestation, en fait, de cette pollution, mais l'impunité demeurait. Et donc, on a voulu enquêter à la fois sur la pollution, à quel point cette industrie continuait de polluer, et en même temps, les subventions, l'argent public coulait à flot pour cet industriel pollueur et hors la loi.
Il est notamment reproché à ArcelorMittal d'avoir falsifié certaines données en matière d'émissions de polluants dans l'air et d'avoir caché des informations, car au-delà du CO2, leurs émissions contenaient également du benzène, des particules fines, du plomb, du cadmium, tous classés cancérogènes et mutagènes. Pour la journaliste Ariane Lavrieux, cette mise en examen est donc un premier pas vers la reconnaissance des faits.
C'est une étape très importante pour les habitants qui se battent depuis près de 20 ans pour faire reconnaître que l'industriel porte atteinte à leur santé. Donc c'est une très bonne étape vers une possible fin de l'impunité.
Dans un communiqué, ArcelorMittal Méditerranée dit coopérer pleinement avec les autorités et conteste fermement les accusations à son encontre.
Et puis enfin à Paris, le concert intitulé Solidarité Congo cristallise toutes les tensions prévues initialement le 7 avril prochain. Concert initialement prévu au profit des enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC. Eh bien cette fois-ci, La maire de Paris demande au préfet de police d'interdire ce concert, comme le demande aussi la diaspora rwandaise, car le 7 avril est une journée internationale de commémoration du génocide au Rwanda.
C'était Adrien Delgrange, le grand journal du soir sur RFI, 19h15 ici à Paris.
Romain Ozoui.
Et coup d'œil au programme des prochaines minutes. On a évoqué dans le grand journal du soir cette conférence sur l'antisémitisme qui aura lieu demain à Jérusalem, qui provoque une vive polémique, alors non pas pour son contenu, mais en raison des invités, notamment Jordan Bardella, président du Rassemblement National, le parti au passé sulfureux à l'égard des Juifs. Et bien sur ce sujet, nous appellerons nos collègues du quotidien suisse Le Temps, leur correspondante à Jérusalem, à réaliser un reportage. Et puis, quand les nouvelles autorités syriennes tentent de s'attaquer au fléau du Captagon, cette amphétamine qui constituait le revenu numéro 1 du régime de Bachar al-Assad, nous serons à Damas dans les prochaines minutes. Pour l'heure, voici les sports. Avec Thomas Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Romain.
Allez, le foot. Mauvaise opération pour le Nigeria et le Bénin dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique.
C'est la sixième journée et le Nigeria n'est que quatrième de son groupe après un match nul un partout concédé face au Zimbabwe il y a quelques minutes. C'est l'Afrique du Sud qui est largement en tête de cette poule suite à sa victoire 2-0 au Bénin. Dans le groupe D, le Cap-Vert prend de l'air. Victoire 2-1 en Angola et 4 points d'avance maintenant sur un Cameroun sous pression avant de recevoir la Libye tout à l'heure, le gardien des Lions indomptables, André Onana.
L'équipe se porte bien, travaille avec beaucoup de sérénité, donner le meilleur de nous-mêmes, rester concentré, être une équipe offensive, dominante, avoir la possession de balle, concrétiser nos occasions et célébrer nos buts avec nos supporters. Nous avons l'opportunité de démontrer que nous sommes une grande nation et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je sais que quand on joue à la maison avec le soutien de chacun d'entre vous, on est beaucoup plus fort. Après, l'adversaire, ils ont des qualités, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous allons proposer demain. Nous devons juste prendre nos responsabilités et que les leaders assument le statut de leader.
Voilà, Cameroun, Libye dans quelques minutes. À suivre aussi ce soir, Mauritanie, RDC, Comores, Tchad, Algérie, Mozambique, Sénégal, Togo ou encore Maroc, Tanzanie.
Voilà pour la zone Afrique, la zone Amérique du Sud à présent et l'Argentine et le Brésil qui vont se rencontrer ce soir et le contexte est bouillant.
Plus qu'une question de points ou de place entre l'Argentine première, le Brésil troisième de cette zone, c'est un duel électrique, une question de suprématie régionale et des premières déclarations qui, on va dire, donnent le ton. Nous allons tabasser les Argentins sur le terrain et en dehors. S'il le faut, c'est un dérapage complètement incontrôlé de l'ailier de la Seleção, Rafinha, sur une chaîne YouTube il y a quelques jours. Alors dans un style moins belliqueux et disons plus courtois, son capitaine Marquinhos, lui aussi, a rappelé l'enjeu tout à fait particulier de cette rencontre.
Argentine-Brésil, Brésil-Argentine, c'est toujours un match à part, un classique à part. Il y a beaucoup d'histoires en jeu, beaucoup de confrontations. Tous les matchs Brésil-Argentine auxquels j'ai participé ont été différents. Ils ont tous été comme ça. Un match de contact, de duel, où les deux équipes se battent sur chaque ballon sur le terrain. Je pense que ce match-là ne sera pas différent dans l'envie. C'est le bon moment pour gagner. Cela fait un moment que nous n'avons pas gagné contre eux. Nous savons que ce ne sera pas facile, que rien ne nous est donné sur le terrain. On se battra avec acharnement pour afficher notre meilleur niveau, technique, physique et mental. C'est ce visage que nous voulons montrer.
Et Argentine-Brésil, c'est à minuit temps universel au stade Monumental de Buenos Aires, dans les mêmes eaux. D'autres matchs intéressants pour le compte de ces éliminatoires zone AMSUD, notamment Chili, Équateur et Colombie-Paraguay. On apprend, Romain, à l'instant, la qualification pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone Asie de l'Iran qui se qualifie donc après son match nul de partout face à l'Ouzbékistan.
Le foot hors des terrains à présent, avec cette victoire judiciaire importante pour Michel Platini et Sepp Blatter.
Les anciens patrons de l'UEFA et de la FIFA, de nouveau acquittés par la justice suisse, comme en première instance, la cour d'appel extraordinaire du tribunal pénal fédéral n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé début mars 20 mois de prison avec sursis contre chacun des accusés dans le cadre de l'affaire du paiement supposé déloyal de 2 millions de francs suisses à Michel Platini par la FIFA en 2011 pour un travail de conseiller technique. Sauf nouveau recours, ce feuilleton judiciaire démarré en 2015 est donc désormais clos et le français va pouvoir passer à autre chose.
La persécution de la FIFA et de quelques procureurs suisses, quelques procureurs fédéraux, depuis 10 ans, maintenant est totalement terminée. Et donc je suis soulagé, j'ai retrouvé mon honneur et je peux être plus tranquille maintenant. L'histoire, elle est très simple. Il fallait m'empêcher d'être président de la FIFA. Point final, c'est pas une histoire d'argent. Il n'y a rien là-dedans. Tout est clair, tout est net. Mais je le sais depuis 10 ans. Après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, comment vous vous êtes posé. Mais aujourd'hui, je suis pas soulagé, je suis content parce que c'est une affaire qui est terminée, on va pouvoir passer à autre chose.
Et puis rapidement, les huitièmes de finale du Masters 1000 de tennis de Miami. Gaël Monfils dispute actuellement son troisième set face à Sébastien Corda. Tout à l'heure, Novak Djokovic sera opposé à l'Italien Musetti et à Arthur Fils à l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 1.
Et bien, c'était Journal des Sports. Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger. Il est 20h20 à Jérusalem. Allez, on va évoquer à présent un événement qui est vivement commenté. Demain, mercredi, se tiendra à Jérusalem une conférence sur l'antisémitisme. Et ce qui crée la polémique, eh bien, c'est la présence annoncée de plusieurs représentants de partis d'extrême droite européens et notamment du Rassemblement National. Bonsoir Charlotte Gauthier.
Bonsoir.
Correspondante à Jérusalem pour le quotidien suisse Le Temps. Vous vous êtes penchée sur ce sujet en détail. Première question, comment cette invitation est-elle perçue au sein de la communauté juive française ?
Alors, il faut distinguer deux choses dans les réactions, la façon dont c'est perçu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un sentiment très mainstream de la masse de cette communauté, et puis il y a un sentiment plus minoritaire, qui a été aussi celui qui était plus visible peut-être dans la presse. Donc je vais commencer un peu à contre-courant par le minoritaire, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont quand même très choqués de cette venue du Rassemblement National, ex-Front National, de par les origines antisémites du parti, hein, qui a quand même été fondé par Jean-Marie Le Pen et d'anciens Waffen-SS, donc c'est quand même quelque chose que tout le monde n'a pas oublié et qui fait que ça fait polémique, parce que c'est quand même un peu comme inviter les ennemis de toujours du peuple juif en Israël. Donc il y en a certains qui sont toujours sur ce positionnement-là. Mais c'est plus une posture morale. Pour le reste, la grande majorité, c'est quand même des gens qui voient pas le mal, ou qui même se disent que c'est peut-être plutôt une bonne chose d'inviter le RN en Israël, que peut-être ça prouve que le RN a finalement compris que les juifs n'étaient pas le problème, hein, je cite des gens qui m'ont parlé, ou que ça aidera à renforcer la sécurité pour les juifs, notamment en France. Et sinon, c'est, entre guillemets, le moindre mal. C'est-à-dire que cette communauté juive française ou franco-israélienne, elle perçoit aujourd'hui l'ensemble des partis politiques en France comme anti-israéliens, et elle se dit que finalement le seul qui les a soutenus sans faille depuis le 7 octobre 2023 en particulier, c'est le Rassemblement National. Donc pour eux, finalement, ils se disent, voilà, on ne s'est pas senti soutenu par Macron, on a le sentiment que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ne fait que soutenir les Palestiniens et être très critique à l'égard d'Israël et des Juifs, voire tenir des propos antisémites, donc pourquoi pas le RN ?
Justement, vous évoquez la France insoumise, est-ce que le point commun entre le gouvernement israélien et le Rassemblement National aujourd'hui, c'est le combat contre la gauche notamment.
Alors, c'est le combat contre la gauche. Alors, la gauche israélienne et la gauche française sont quand même très différentes, hein, faut bien l'avoir en tête. Mais disons que c'est un combat contre les valeurs de gauche, c'est-à-dire les valeurs de gauche dans ce qu'elles ont d'ouverture aux minorités, que ce soit les minorités ethniques ou les minorités homosexuelles. Donc tout ça, c'est des combats qui rassemblent ces extrêmes droites, qu'elles soient israéliennes ou européennes, avec un certain conservatisme. Maintenant, chacun se bat à sa manière et pas avec les mêmes agendas en tête contre sa gauche. La gauche et l'extrême droite israélienne se bat contre la gauche israélienne. L'extrême gauche et l'extrême droite française sont extrêmement opposées. Voilà, chacun a ses sujets intérieurs. Mais il y a effectivement des valeurs qui les rassemblent dans leur combat.
On a le sentiment quand même que côté du gouvernement israélien, il y a une espèce de sauf qui peut gouvernement israélien qui est mis à mal par la guerre à Gaza et en fait qui cherche à tout prix des alliés. Et voilà, le RN en fait partie.
C'est ça, c'est pas tant un sauf qui peut que il faut vraiment comprendre que c'est pas un sentiment vraiment non plus du gouvernement israélien, c'est vraiment un sentiment de la société israélienne en général qui a vraiment un sentiment profond de solitude immense depuis le 7 octobre. Malgré ce qui peut paraître comme des soutiens à travers la planète entière pour Israël, pour sa défense et sa réaction suite aux attentats du Hamas du 7 octobre, les Israéliens, eux, ont l'impression au contraire que tout tout le monde leur a tourné le dos. Donc le moindre soutien, même venant des partis et des personnes les plus improbables, sera un soutien qui va être accueilli en fait et embrassé, et même si ça va en contradiction avec le passé de ces personnes qui les soutiennent aujourd'hui, en tout cas dans les mots.
Ce sera ma dernière question, et ça résume l'enjeu de cette conférence sur l'antisémitisme demain, au cours de laquelle, donc on l'a dit, plusieurs partis d'extrême droite européens sont invités, notamment le Rassemblement National. Vous avez interrogé un expert qui n'hésite pas à parler d'un vrai tournant idéologique pour Israël.
Oui, tout à fait. Cet expert est bien connu en France. Il s'appelle Jean-Yves Camus. C'est le président de l'Observatoire des radicalités de la Fondation Jean Jaurès. Ça fait des décennies qu'il travaille sur le sujet des extrêmes en France et en Europe. Donc, il a quand même une vision très large des liens entre ces différents extrêmes, où qu'ils soient en Europe. Et il se trouve qu'il est aussi de confession juive, qui connaît très bien Israël. Donc, en fait, il a vraiment une vision très juste sur ces évolutions et très suivie. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que, en dehors de la question de l'extrême droite qui existe en Israël, il y a aussi la question de la droite, qui est celle de Benjamin Netanyahou, le parti du Likoud, qui n'est pas catégorisé comme à l'extrême droite, que en France on pourrait considérer comme d'extrême droite, mais ici considéré quand même toujours comme la droite entre guillemets traditionnelle israélienne, qui effectivement effectue un tournant idéologique, parce qu'en fait elle avant a toujours été alliée avec les droites traditionnelles européennes. Et elle considère aujourd'hui que les droites traditionnelles européennes ont failli, qu'elles ne savent plus se défendre elles-mêmes et qu'elles ne sont plus des alliés valables non plus pour Israël. Et c'est aussi pour ça qu'Israël se tourne vers les droites extrêmes, les droites radicales et les droites identitaires, notamment le Rassemblement National.
Israël assume son rapprochement avec l'extrême droite européenne. Article à lire dans le quotidien suisse Le Temps et évidemment sur votre site internet. Merci Charlotte Gauthier.
Merci à vous.
Et direction à présent la Syrie pour évoquer le fléau du Captagon, cette amphétamine qui, outre le fait de faire des ravages sanitaires, eh bien, a enrichi le régime de Bachar al-Assad et ses alliés du Hezbollah, puisque le Captagon, c'était la principale source de revenus de Damas, ce qui a transformé d'ailleurs la Syrie en narco-État. C'est un commerce illicite auquel le nouveau président par intérim, Ahmed al-Shara, entend s'attaquer. Reportage dans la capitale syrienne, Manon Chaplin.
Dès l'entrée du hangar, l'odeur des produits chimiques prend au nez. À terre traînent encore des dizaines de gants en plastique, des masques et lunettes de protection, une balance rouillée sur laquelle reposent des plaquettes de hashish, des sachets de Captagon. Dans la zone, les usines de production ont été récupérées début février des mains des milices chiites du Hezbollah au terme de violents combats.
À l'intérieur de l'usine, on a bien sûr trouvé du Captagon, toutes sortes de pilules et de drogues, mais aussi beaucoup d'armes, des armes à feu.
Depuis Zakaria Mahmoud Abdelkader et son unité, des soldats rattachés à l'administration en charge des frontières, ont repris le contrôle de la zone. Wadi Anas, c'est son nom, quelques kilomètres de territoire coincé dans un mouchoir de poche à la frontière libanaise. Les milices chiites du Hezbollah y travaillaient de concert avec le régime de Bachar al-Assad pour y produire du Captagon.
Chaque bâtiment que vous voyez autour de vous était une usine de production. Nous avons tout fermé, ainsi que les points de passage à la frontière. C'est désormais plus compliqué de faire du trafic.
Dans les villages alentours, les habitants sont encore terrorisés, témoigne une habitante qui a souhaité rester anonyme.
On veut que le nouveau gouvernement nous protège. Les milices continuent de nous menacer. Ils nous appellent, nous envoient des messages, nous disent qu'ils vont nous tuer et nous égorger si nous parlons.
Nous avons essayé de vous prévenir, mais vous n'avez pas l'air de comprendre. Celui qui parle, je lui marcherai sur le cou sur la place du village.
Dans le sud de Damas, le quartier de Rukn ed-Din était l'un des plus touchés par le trafic. Des centaines de jeunes ont été poussés à la consommation jusqu'à sombrer dans l'addiction. Le régime les utilisait ensuite pour cibler l'arrestation de certains opposants, explique un commerçant du quartier.
Parfois, quand le régime cherchait à arrêter quelqu'un en particulier, il lui fouillait tout simplement les poches et mettait du Captagon à l'intérieur. Ensuite, il l'emmenait au poste. Dans le quartier, les gens devenaient fous à cause de cela.
Avec les années, la violence a fini par gangréner ce quartier. Le Hezbollah, qui appuyait le régime dans ses combats contre les zones rebelles, venait y chercher de nouvelles recrues. Ce même commerçant a fait partie d'une de ces milices durant 2 ans.
Le Hezbollah avait l'habitude de donner à ses soldats une certaine quantité de Captagon dans un petit sac. Le mot d'ordre était « consommer, puis combattre ». Les pilules qui n'étaient pas consommées étaient conservées puis revendues ici, dans le quartier.
Des rondes sont désormais organisées dans les ruelles de Rukn ed-Din par le service de sécurité générale du nouveau gouvernement. Impossible de totalement l'arrêter, mais le trafic a largement diminué, explique Ahmed Djatoubouch, en charge de la sécurité.
Les trafiquants n'ont plus autant de pilules à disposition qu'avant. C'est donc devenu plus difficile de vendre. Les policiers essayent également de sensibiliser les habitants sur le danger de ce trafic.
Au plus fort de sa production, en 2021, le marché du captagon en Syrie était estimé à plus de 10 milliards de dollars. Manon Chaplin à Damas, RFI.
Et il est 18h29 en temps universel et votre session soirée de l'info sur RFI se poursuit pendant 1h30. Dans une minute, même pas, ce sera la première édition d'Afrique Soir et elle a eu l'ampleur de la dette publique au Sénégal. Une délégation du FMI en déplacement au Sénégal confirme les conclusions sur ce plan-là de la Cour des comptes. Juste après, ce sera le journal de 19h temps universel de Véronique Rigolet. Puis 19h10, votre session reportage pendant 50 minutes, comme chaque soir sur RFI. Dossier retraite ce soir dans Accent d'Europe qui sera au Portugal et au Royaume-Uni. Et puis le grand reportage, ça c'est dans une heure, en Espagne, le monde rural andalou en guerre contre l'énergie solaire. Voilà le programme, ne bougez pas, on revient dans un instant.